Bonjour à tous. Je suis heureux de venir parler de Mère Teresa de Calcutta. Je suis le père Thierry François de Vregille et j'appartiens à la Fraternité de la Parole. Cette Fraternité de la Parole a été fondée par Mère Teresa de Calcutta en 1976. Et je veux parler de Mère Teresa volontiers parce que j'ai eu la chance, vraiment la grande chance de bien la connaître à travers des rencontres quand j'étais à Rome en particulier. Je suis allé voir Mère Teresa en 1993 à Rome. C'était des retrouvailles parce que je l'avais déjà vue une première fois à Rome en 1978. Et puis, je suis resté sur Rome dans cette fraternité de la parole en 94, entre 95, et là, Mère Teresa venait beaucoup à Rome. Et on la rencontrait, on priait avec elle, on avait des réunions aussi avec elle. Et puis, en avril 1994, je me suis rendu à Calcutta avec le père Angelo, le fondateur de cette fraternité de la parole. On est allé voir Mère Teresa à Calcutta. Alors tous ces souvenirs, je les ai bien sûr dans le cœur, dans l'esprit, dans la mémoire. Et c'est plutôt à partir de Noël, dans des prochaines émissions, que je raconterai hein, ces rencontres de Rome et ces rencontres à Calcutta. Mais aujourd'hui, il faut faire ce chemin de parler de la mère, de son enfance, de sa famille, de sa naissance, hein, et de ce qu'elle a vécu entre son père et sa mère à partir de 1910, puisque Mère Teresa est née le 26 août 1910 à Skopje. Skopje, c'est aujourd'hui la capitale de la Macédoine du Nord. Mais à l'époque de l'enfance de Mère Teresa, c'était l'Empire ottoman. Et cette famille de Mère Teresa était une famille albanaise. Aussi bien son père que sa mère, c'était un peu la colonie albanaise de Skopje. Elle avait une sœur aînée qui était un peu plus âgée, et puis un frère, Lazare. Et ensuite, Mère Teresa est née. Alors, elle s'appelait bien sûr autrement. Elle s'appelait Gongsa Boyaksu. Gongsa, c'est Agnès dans la langue de la future Mère Teresa. Donc, Gongsa Boyaksu est née en août 1910 et puis elle a été baptisée. Et elle a vécu, je crois, avec son père, sa mère et sa sœur aînée et son frère aîné, vraiment un temps d'unité familiale pendant des années. Hein. Pendant des années, elle était la petite dernière et c'est peut-être à travers une famille unie qu'on peut le mieux percevoir ce qu'était cette famille de Gongsa, de Agnès. Cette sœur aînée va demeurer avec la mère plus tard à Skopje et on en reparlera. Et puis Lazare, par contre, le frère, quand il sera plus grand, va rentrer dans l'armée albanaise parce que cette colonie albanaise de Skopje avait, on pourrait dire, cette soif, ce désir un peu d'identité albanaise, d'autant plus que Skopje est une ville aux multiples ethnies, aux multiples religions, puisque quand Mère Teresa était petite, quand Agnès était petite, il y avait des musulmans, il y avait des orthodoxes, il y avait des catholiques, les catholiques étaient minoritaires. Et donc, on se retrouvait en famille avec cette identité catholique et puis surtout ce désir de prier, hein, ce désir de prier. Alors, j'en parle maintenant parce que Mère Teresa était une grande priante. Hein. Elle disait même des fois, je suis une contemplative aux journalistes, alors qu'elle passait ses journées plus tard, donc à agir. Hein. Donc elle disait, je suis une contemplative. Et je crois que ce besoin de prier, ce désir de prier et cette prière constante qu'elle avait, eh bien, ça a été un peu le secret de sa mission. Alors, au début de cette émission, ben, j'ai tout simplement envie de prier avec vous, les auditeurs, de prier avec elle, de prier aussi avec Émilie. Alors, Émilie, elle m'a accompagnée aujourd'hui pour parler de Mère Teresa. Et on va ensemble invoquer l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur pour qu'il nous guide et qu'il nous conduise dans ses paroles de témoignage sur Mère Teresa. Hein. Viens Esprit Saint, viens Esprit du Seigneur, viens Esprit du Père, viens Esprit du Fils. C'est toi qui es avec nous, c'est toi qui habites en moi, c'est toi qui habitais le cœur, l'esprit de Mère Teresa quand elle a commencé sa mission en Inde. Et tout cela, cette prière à l'esprit, eh ben c'est dans sa famille, à Skopje, qu'elle l'a appris. Avec son père, avec sa mère et aussi avec la paroisse. Nous te prions, Seigneur, descends sur nous, descends-nous. Koriestene. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, viens témoigner en nous, viens parler en nous, parce que si nous témoignons aujourd'hui de Mère Teresa, c'est pour témoigner de toi, Seigneur, notre Dieu d'amour, Seigneur Jésus, toi à qui Mère Teresa avait donné sa vie. Et puis, permettez-moi de dire un « Je vous salue Marie » aussi avec vous qui m'écoutez parce que c'était la prière un peu favorite de Mère Teresa quand je la voyais à Rome, quand je la voyais à Calcutta aussi pendant ce court séjour que j'ai fait là-bas. Elle avait toujours ce chapelet à la main et puis par chance, par grâce, elle m'a donné un chapelet que j'ai là aujourd'hui, à la garde entre les mains. Alors, c'est la Vierge Marie que nous prions, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour Mère Teresa que tu nous as donnée en exemple. Mère Teresa, Gongsa Boyaksu, Agnès en français, a vécu cette vie heureuse avec ses parents. Son père s'appelait Collet, on le traduit par Nicolas. Et puis sa mère Drame, et puis sa sœur aînée Adjé et son frère Lazare. Et il se passe en 1919, elle avait 9 ans, un événement difficile, voire dramatique dans cette famille. C'est que le père, qui avait une entreprise et puis qui permettait à sa famille de vivre, il était associé d'ailleurs avec un Italien, part un jour à Belgrade à une réunion pour parler de l'Albanie, pour parler de la libération de l'Albanie, pour parler de cet engagement qu'il avait dans ce mouvement des Albanais qui auraient aimé retrouver leur pleine liberté en tant que pays, en tant que peuple. Et de retour, cet homme qui était en pleine santé, son épouse l'accueille déjà très malade. Il était très mal, d'après les témoignages hein, de l'époque de sa famille, bien sûr. Il était très mal et on l'a conduit à l'hôpital et il y a une tentative d'opération en 1919 du père de Gongsa, d'Agnès, et il meurt. Il meurt. Alors, ça, c'est un événement extrêmement important pour Teresa, Agnès, parce que à 9 ans, quand on perd son père, on perd tout. On perd tout. Je crois qu'entre sa mère et son père, il y avait ce rôle du père qui était très important pour la petite Gongsa. Et du jour au lendemain, le Père disparaît, le Père s'en va. On connaît l'histoire du pape Jean-Paul II, hein, qui, enfant, a perdu sa mère et qui, de ce fait, bon, s'est rattaché beaucoup à Marie, à la Vierge Marie. Eh bien, Gongsa va voir du jour au lendemain son père mourir. Et apparemment, c'était une mort naturelle, mais quand même, on se posait bien des questions, puisqu'il était en pleine santé, il était revenu malade de Belgrade, si bien que Lazare, le frère, qui a 12 ans, lui, qui a 12 ans à cette époque, va quand même se poser des questions sur la mort de son père. Et on pense maintenant, aujourd'hui, des années après, et avec ces témoignages, entre autres, de Lazare, que le père, à cause de son engagement politique, hein, a sans doute été empoisonné. Toujours est-il que pour cette famille, c'est le passage à une autre vie. Vraiment, le passage à une autre vie, parce que la mère va résoudre les problèmes avec l'associé. Elle va, bien sûr, récupérer les parts de Nicolas, son mari, son époux, qu'elle aimait beaucoup, et ils étaient très unis, et qui vient de disparaître. Et puis, elle va fonder, pour faire vivre sa famille, pour faire vivre ses trois enfants, hein, un petit atelier de couture. Alors, la vie va reprendre différemment pour Mère Teresa, avec l'absence de son père, mais sans qu'on ait beaucoup de témoignages sur cet enfant, Agnès. Je crois pouvoir dire que elle vivait intérieurement déjà très fortement sa foi en Dieu, sa foi en Jésus-Christ, son désir aussi de prier la Vierge Marie, qui certainement avait déjà une grande part dans son cœur. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que la famille, déjà du temps du père et après, allait en pèlerinage à Letnica. Letnica, c'est un lieu de pèlerinage à une dizaine de kilomètres de Skopje, hein. Et c'est là que la famille aimait se retrouver après et avant le décès du père pour prier le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur, pour vivre leur foi de manière familiale et puis aussi personnelle, individuelle, parce que moi j'imagine toujours que la petite Agnès, dans son cœur, était déjà très amoureuse, hein, de ce Dieu d'amour, de ce Jésus, hein, qui l'a appelée d'ailleurs un jour à Letnica au cours d'un pèlerinage. Là non plus. Ce qui se passe dans la vie intérieure entre Agnès et le Seigneur, c'est son secret, c'est le secret de Dieu. Mais quand on a soi-même reçu un appel, on peut un petit peu témoigner de ce que quelqu'un d'autre, comme Mère Teresa, a pu ressentir. Ce Seigneur qui lui faisait comprendre qu'il l'appelait à donner sa vie, qui lui disait, bon. J'emploie des paroles, mais c'est dans le silence du cœur, hein. Viens à moi, viens, suis-moi, et puis suis-moi au loin. Suis-moi au loin, c'est-à-dire je t'appelle à être missionnaire. Et il va se passer un autre événement un jour en revenant de Letnica, de ce lieu de pèlerinage, peut-être quelques années après, c'est que un jésuite va être de passage à Skopje. Donc, les jésuites, c'est la famille religieuse de notre pape François, hein, qui est un jésuite. Pour ceux qui ne connaissent pas les jésuites, bon, ils ont un modèle aujourd'hui, ce pape François, qui est issu de cette communauté, de cette congrégation. Donc, un jésuite passe à Skopje dans l'enfance de Mère Teresa et témoigne à la paroisse. Et il témoigne déjà de l'Inde, des missions en Inde, et il va parler d'une communauté en particulier qui s'appelle les Sœurs de Notre-Dame de Lorette. Les Sœurs de Notre-Dame de Lorette, il va décrire leurs écoles qu'elles ont en Inde et en particulier à Calcutta et leur mission d'enseigner et de parler bien sûr aussi du Seigneur, puisque les grandes religions au niveau numérique de l'Inde, eh bien, ce sont les hindous et les musulmans, et les chrétiens sont minoritaires. Toujours est-il qu'il y a des missions des sœurs de Notre-Dame de Lorette, hein, et dont va parler ce jésuite, et ça va réveiller en Agnès, en Gongsa, en la future Teresa, ce désir de devenir missionnaire. Ce désir de devenir missionnaire, de rejoindre cette communauté, mais elle va garder ça dans son cœur, elle va garder ça pour elle, elle va continuer, je l'imagine facilement, hein, de prier le Seigneur, de confier son désir de rentrer chez les sœurs de Notre-Dame de Lorette, et elle ne va en parler à personne. Elle va continuer de vivre sa vie. Alors là, on a quelques témoignages, hein, avec ses amis, hein, ses amis de la paroisse. Hein. On décrit dans les livres sur la vie de Mère Teresa quand elle était enfant, ses retrouvailles avec ses amis de la paroisse. Et on nous dit qu'elle était déjà très joyeuse, très, très heureuse de vivre. Et puis intérieurement, elle avait cet appel, elle avait ce désir de suivre le Seigneur et de devenir missionnaire. Mère Teresa a donc mûri sa vocation dans son cœur, dans son esprit et au milieu de sa famille, hein, de sa maman, de son frère et de sa sœur. Et puis son père était décédé quand elle avait 9 ans. Et puis un jour, à 18 ans, donc en 1928, au début de l'année 1928, elle va retrouver sa mère, sans doute dans l'atelier de couture, et lui dire son appel, lui dire que le Seigneur l'appelle à devenir missionnaire et qu'elle a ce désir de rejoindre les sœurs de Notre-Dame de Lorette. La maman, bien sûr, qui avait vu partir brutalement son époux, son mari, comprend que ça va être une nouvelle rupture, un nouveau déchirement. À l'époque, quand on quittait sa famille et pour partir au loin, pour partir en Inde en l'occurrence, on ne revenait jamais. On ne revenait jamais, ou si parfois on revenait, c'était par quelque hasard de la vie, mais les ruptures au niveau de la vocation, au niveau de l'appel, étaient beaucoup plus importantes, beaucoup plus fortes par ce détachement. Et tout ça, la maman le savait, bien sûr, et Mère Teresa va tenir bon, elle va faire comprendre à sa maman que c'est Jésus qui l'appelle et qu'il faut qu'elle réponde à cet appel de Jésus. Et il se trouve que dans la même paroisse, dans la même église catholique à Skopje, il y avait une autre jeune fille, comme Mère Teresa, et qui va faire part, elle aussi, de son désir de rejoindre les sœurs de Notre-Dame de Lorette. Et donc, elles vont bien sûr parler à ce jésuite, hein, et qui va les préparer à partir, qui va les aider à partir, qui va les aider à prendre contact avec la maison mère qui se trouve en Irlande, hein. Alors, je dis aussi un petit mot de Lazare, parce que Lazare, le frère aîné, était parti de la maison, il avait 21 ans, il s'était engagé dans l'armée albanaise, dans l'armée albanaise qui se reconstituait, je crois, autour du roi d'Albanie, etc. Et quand il va apprendre que sa petite sœur, qui est restée à la maison, veut devenir religieuse, il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Il va dire, qu'est-ce que tu veux t'enfermer maintenant dans un couvent? Est-ce que tu crois pas que tu dois rester auprès de maman? Etc. Etc. Alors Mère Teresa va paisiblement écrire une grande lettre à son frère Lazare pour elle expliquer que le Seigneur l'appelle, qu'elle a fait ce choix de suivre le Seigneur et qu'elle va partir et que de toute façon rien ne changera sa décision. Elle a décidé de partir et elle partira. C'est ce qui va se faire avec cet ami, qui voulait, comme elle, devenir sœur de Notre-Dame de Lorette. Alors, on a une petite description dans les livres qui racontent cet événement, bien sûr, du déchirement de la mère et de la sœur aînée qui voient leur fille et sa sœur pour âge partir, prendre le train. Elles vont prendre le train pour aller sur Paris, hein, traverser l'Europe, et puis ensuite elles vont monter sur Calais, et puis à partir de Calais, elles vont prendre le bateau, et puis en bateau, elles vont rejoindre la maison mère des Sœurs Notre-Dame de Lorette à Dublin. Alors là, j'ai bien sûr peu de détails de cette vie de quelques mois de postulante, hein, puisque deux jeunes qui arrivent comme ça, deux jeunes d'origine albanaise, il faut déjà qu'elles apprennent la langue, tout simplement. Alors je suppose qu'il y a eu des cours d'anglais, hein, qui leur ont été donnés. Et c'était très important parce que on sait que c'est devenu la langue de l'Inde et que Mère Teresa va passer ensuite sa vie en Inde, donc il fallait commencer par apprendre ses rudiments d'anglais et commencer à communiquer en anglais. Et un détail qui me revient à l'esprit en racontant, c'est que ça va être la langue des missionnaires de la charité que Mère Teresa fondera beaucoup plus tard, l'anglais. Hein. Dans toutes les communautés de Mère Teresa, il y a des communautés en France, hein, des missionnaires de la charité, les sœurs de Mère Teresa. Il y en a à Marseille, à Lyon, à Paris, et la langue, c'est l'anglais entre les sœurs. Et puis, si un prêtre arrive, elle préfère célébrer la messe en anglais. J'étais pas du tout doué pour l'anglais, alors je célébrais en français. Hein. Ça m'arrivait de célébrer la messe avec les missionnaires de la charité à Paris, à Marseille ou à Lyon. Par contre, plus tard, quand je suis allé à Calcutta, là, j'étais bien obligé de célébrer la messe en anglais. Bon, tout ça pour dire que la mère a appris l'anglais avec la mère, je veux dire, Gongsa, puis surtout, elle a choisi, je crois, à Dublin, un prénom, Teresa. Et ce prénom, eh bien, nous savons d'où il vient. C'est le prénom, le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus. Parce que Thérèse de l'Enfant Jésus a vécu dans son Carmel en France, hein, et puis elle est décédée au Carmel, et ensuite elle a été connue, hein, par ses écrits magnifiques, hein, sur sa vie intérieure, et elle a été ensuite béatifiée et canonisée. Thérèse de l'Enfant Jésus va être aussi un modèle, un exemple. Elle a été canonisée, si je ne me trompe pas, en 1925. Donc, Mère Teresa, en 1928, 3 ans après, entend parler de cette grande religieuse, missionnaire, Thérèse de l'Enfant Jésus, et va accepter, parce que c'est le choix qu'on lui a proposé, de porter ce nom de Teresa. Teresa, Thérèse, comme Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, j'en viens maintenant. Peut-être à ce voyage après vers l'Inde, vers Calcutta, hein, après quelques mois passés en compagnie de son amie, postulante comme elle, elles vont prendre le bateau. Alors, il y a une chose qu'on sait, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio, de téléphone, de télévision, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, Mère Teresa, Gongsa, Teresa écrivait beaucoup. Et il y a des lettres d'elle, des lettres de sa jeunesse et du début de sa vie religieuse adressées à sa mère et à sa sœur qui étaient restées à Skopje. Donc, si ça vous intéresse de mieux connaître l'histoire de l'enfance et de la jeunesse de Mère Teresa, eh bien, allez voir dans les livres sur Mère Teresa et vous trouverez. Ces belles lettres de Mère Teresa avec surtout déjà une grande expression de foi, hein, en Dieu, au Christ, et puis surtout aussi, je dirais, de détermination de répondre à l'appel du Seigneur et de rejoindre Calcutta. Donc, avec son amie, elles vont rejoindre Calcutta, après avoir traversé les mers, hein, jusqu'à Calcutta. Ceux qui ont fait des voyages en bateau, imaginent, mais avec le recul, hein, ce qu'a pu être ce voyage, hein, jusqu'à Calcutta. Je sais parce que j'ai lu ce témoignage, qu'à un moment donné, ben, il n'y avait pas de prêtre sur le bateau. Et après une escale, il y a un prêtre catholique qui est monté sur le bateau. Donc elles ont été heureuses de pouvoir célébrer avec lui, d'assister à la messe de ce prêtre catholique. Bon, c'est une des aventures qui lui est arrivée à cette époque, mais qui nous dit bien que Mère Teresa a été habitée par le Seigneur, et elle a dû être très heureuse ce jour-là de pouvoir assister à la messe sur le bateau. Et arrivée à Calcutta, ça va être la découverte de l'Inde, hein. Ça va être la découverte d'un continent, parce que quand on va en Inde, on découvre vraiment un autre monde, hein, un autre monde. Et arrivée à Calcutta, Mère Teresa, Sœur Teresa plutôt, va découvrir, bon, ben, ses rues, hein, déjà de Calcutta, où on se déplace, où on voit, ben, des animaux, des vaches sacrées, où on voit ces gens qui marchent, ces gens qui courent, où on voit aussi ces gens qui ont l'air de faire du surplace, de s'abîmer dans la vie intérieure. Moi, je garde ce souvenir de Calcutta, et puis surtout la foule en permanence, la foule. On peut presque avoir un peu une inquiétude quand on arrive d'être au milieu de cette foule, l'inquiétude de se perdre. C'est l'inquiétude que j'ai eue, c'est pas forcément celle qu'a eue Mère Teresa en arrivant en 1928 à Calcutta. Mais en tout cas, elle arrive à l'école, et puis elle va rentrer donc à l'école dans cette vie. D'abord de novice, hein, puisque pendant 2 années, elle va faire son noviciat. Alors, les religieuses qui m'écoutent, qui m'entendent, connaissent bien cette vie de noviciat, hein, et puis peuvent se projeter, imaginer ce qu'a vécu Mère Teresa, c'est-à-dire des temps d'enseignement avec des religieuses plus âgées, plus aguerries, qui depuis plusieurs années, voire 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, étaient là sur place à Calcutta et pouvaient ainsi enseigner de jeunes sœurs qui arrivaient et qui découvraient tout, hein, qui découvraient tout. Et puis, il y avait d'autres écoles, parce que, bon, vous le savez, hein, c'était en Inde le système des castes, et puis l'Église catholique a tenu compte un peu de ce système des castes, y compris dans les écoles, y compris dans l'enseignement, parce que l'école où est arrivée Mère Teresa, c'était une école pour les Anglaises qui vivaient à Calcutta, puis il y avait une autre école pour les filles de milieux aisés, hein, qui fréquentaient cette école. Et ça a été le début de la découverte aussi très importante de Mère Teresa, c'est ce système des castes, de séparation, hein, dans la société en Inde, entre les milieux, avec cette caste des brahmanes, hein, qui sont au-dessus des autres. Alors, je parle des brahmanes parce que il y a un souvenir. Vous savez, les souvenirs me reviennent au fur et à mesure que je parle, et c'est la première qui, longtemps après, succédera à Mère Teresa chez les missionnaires de la charité. C'est Nirmala. Et Nirmala, c'était une indienne. D'une caste supérieure, et puis qui était hindoue. Et elle va être touchée, Nirmala, par le témoignage de Mère Teresa, et touchée au point qu'elle va se convertir au christianisme, et puis elle va être baptisée. Et non seulement elle va être baptisée, mais elle va dire à Mère Teresa: « J'aimerais rentrer avec vous dans la communauté des missionnaires de la charité, hein. » Donc je reparlerai plus tard. Et puis elle va rentrer dans cette communauté des missionnaires de la charité. Et puis en 1996, peu avant le décès, la mort de Mère Teresa, quand elle va se retirer de sa charge, hein, de supérieure générale des missionnaires de la charité, eh bien, c'est Nirmala qui va être élue par les autres sœurs, qui va lui succéder, mais sans porter le nom de mère. C'est sœur Nirmala, hein, qui va devenir supérieure générale des missionnaires de la charité, elle est aujourd'hui décédée. Alors je dis sans porter le nom de mère parce que c'est le nom qui est réservé chez les missionnaires de la charité à Mère Teresa, Mother, Ma. Hein. Ma, c'est un autre nom pour dire mère hein, dans la langue indienne et Mother en anglais, bien sûr. Mère Teresa va donc passer 18 années de 1928 à 1946. À Calcutta, dans l'école où, après ses premiers vœux, après le noviciat, elle est devenue religieuse et elle va devenir professeure de géographie. Certains biographes disent qu'elle était aussi professeure d'histoire, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, je suis très intéressé de savoir qu'elle a été pendant des années professeure de géographie. C'est-à-dire, elle va enseigner à ces jeunes filles indiennes la géographie non seulement de l'Inde, mais de la Terre, du monde. Elle va parler des autres pays du monde. Et je trouve que c'est un détail très intéressant parce qu'il nous montre comment Dieu nous prépare. Dieu nous prépare. Et Dieu avait préparé la future mission de Mère Teresa par ce métier hein, de professeur de géographie. Elle va parler à ses élèves de tous les pays du monde avant de pouvoir, beaucoup plus tard, quelques dizaines d'années après, les visiter. Parce que ce qui va se passer après la fondation des missionnaires de la charité, dont on parlera la prochaine fois, eh bien, c'est que Mère Teresa va commencer son œuvre auprès des plus pauvres à Calcutta. Et ensuite, quand de ses anciennes élèves vont la rejoindre, elle va ouvrir des communautés dans d'autres villes de l'Inde, à Bombay, entre autres, hein, et puis dans d'autres villes. Et puis ensuite, le pape Paul VI va venir en Inde. Et il va dire à Mère Teresa, mais vous devez. Il va faire connaissance de Mère Teresa, hein, et Mère Teresa va faire connaissance du pape Paul VI, et il va l'inciter à aller dans le monde entier, à ouvrir des communautés, à aller s'occuper des pauvres ailleurs. Et c'est là qu'on retrouve le métier de professeur de géographie qui était le début de la vie de Mère Teresa comme religieuse de Notre-Dame de Lorette. C'est qu'ensuite, tous ces pays dont elle a parlé, qu'elle a enseigné, eh bien, elle va aller les visiter un par un à chaque fois qu'elle ouvrira une communauté quelque part dans le monde. Je crois que la première communauté, si mes souvenirs sont bons, c'est en Amérique latine, au Venezuela. Je reviens un peu en arrière maintenant, après avoir parlé de cet enseignement de la géographie, pour parler plus de la vie intérieure de Mère Teresa. De la vie intérieure de Mère Teresa, parce que je crois qu'elle est heureuse dans sa vocation, heureuse d'avoir suivi le Seigneur, heureuse d'enseigner. Mais il y a quand même quelque chose qui commence à se faire jour en elle, c'est les pauvres. Les pauvres. Et quand on visite Calcutta et qu'on visite les écoles où Mère Thérèse a enseigné de la congrégation Notre-Dame de Lorette, et en particulier, moi, quand je suis monté dans le taxi à l'aéroport, je suis passé à côté de la première école où se trouvait Mère Thérèse, Antalya, hein, et à côté de cette école, eh bien, il y avait un bidonville. Il y avait un bidonville. Il y avait les pauvres qui étaient là. Ils étaient là contre le mur de l'école où était Mère Teresa. Et on a eu des témoignages de ces anciennes religieuses hein, auprès de qui elles vivaient, de Teresa qui sortait parfois, qui allait rencontrer les familles dans les bidonvilles. Hein? Et se disant, mais je ne peux pas faire grand-chose pour ces familles, pour ces personnes, mais je peux au moins leur apporter le sourire de Dieu, le sourire du Seigneur à travers mon visage. Je peux au moins leur apporter un petit peu de joie simplement de la rencontre, hein? De la rencontre qu'elle faisait pendant quelques minutes ou quelques dizaines de minutes ou un quart d'heure avant de retourner dans son école. Mais je trouve que ce fait de rappeler que le bidonville était là contre le mur de l'école, et comme je l'ai vu 40 ans après, hein, ça a dû remuer déjà le cœur de Mère Teresa. Ça a dû la préparer. Ça a dû la préparer à l'appel qu'elle va recevoir le 10 septembre 1946. Cet appel, on en parlera la prochaine fois, au mois d'octobre, le deuxième lundi d'octobre, à 16h05, quand je reviendrai ici à la gare, parler de cet événement fondateur de la vie de Mère Teresa et surtout de ces missionnaires de la charité qui sont maintenant répandus dans le monde entier et qui volontiers font allusion et rappellent cet événement fondateur du 10 septembre 1946, qui est ce jour où Mère Teresa, dans son cœur, a entendu Jésus qui lui parlait, je raconterai ça la prochaine fois, et qui lui disait « Pars t'occuper des pauvres, des plus pauvres d'entre les pauvres », comme disait Mère Teresa de Calcutta. À bientôt.